Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méthode syllabique, ses forces et ses faiblesses? Lors du séminaire que le ministère avait organisé pour ses cadres en juin dernier, les responsables ministériels avaient fait référence clairement de leur intérêt pour des méthodes syllabiques que dorénavant je vais appeler de méthodes syllabiques strictes, pour les différencier des approches de type syllabique telles que je viens de les définir. Sinon, on ne comprendrait plus rien. D'accord ? C'est pour ça que j'ai pris le temps de préciser ce que j'entendais par deux types syllabiques autour de un enseignement explicite des correspondances entre graphème et phonème, dont les méthodes syllabiques strictes n'ont pas le monopole. Clairement. Donc, parmi ces méthodes, l'une d'entre elles a été citée à plusieurs reprises, et notamment parce que les auteurs de cette méthode, et en particulier le sociologue Terrail, Jean-Pierre Terrail, les ont beaucoup théorisés dans différents ouvrages, dont ceux « Apprendre à lire », par exemple. De quoi s'agit-il? Comment la définissent-ils, cette méthode syllabique stricte? D'abord, pour lever toute ambiguïté, ils l'appellent une méthode graphémique, en disant, pour nous c'est bien clair, on part des lettres, des groupes de lettres, et on enseigne aux enfants leur correspondance sonore. C'est la lettre T qui fait T. C'est la lettre O qui fait O. T et O, TO. Donc c'est vraiment ce travail-là à partir d'une entrée graphémique qui ange. Donc, premier principe énoncé par les auteurs de ces méthodes, on part des graphèmes, on apprend à les identifier, ce qui suppose évidemment de connaître les lettres, et de connaître pas seulement le nom des lettres, mais leur valeur sonore conventionnelle. Souvent, la lettre T fait le son, le bruit T. Puis parfois, elle fait tout autre chose, vous le savez bien. Mais on part de ce qui est sa valeur sonore, on va dire, la plus fréquente, ou muette, évidemment. Et on apprend aux enfants cette partie-là de l'ossature du système alphabétique du français. Deuxième principe, qui est écrit noir sur blanc par les auteurs, ne jamais faire déchiffrer aux enfants des mots qui comporteraient des graphèmes non encore étudiés. Ça, c'est un principe fort. Pas question qu'ils tâtonnent, qu'ils découvrent. Il faut leur donner les règles et leur faire appliquer les règles de correspondance entre les lettres et les sons. Ce principe est très fort, ce qui veut dire qu'il ne faut jamais faire mémoriser des mots entiers comme ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le DANS que vous vouliez introduire dans la deuxième semaine de votre année de CP, parce que vous en aviez besoin pour écrire une phrase qui tienne debout, si vous suivez une méthode syllabique stricte, c'est tabou, c'est interdit. D'ailleurs, même les gens qui utilisent des méthodes syllabiques strictes, généralement, s'émancipent de cette règle absolue parce qu'elle les coince énormément. Elle les coince à plein de niveaux. Elle les coince parce qu'ils n'ont pas le droit d'écrire la date. Parce que lundi, vous n'avez pas étudié encore le UN qui fait 1, vous ne pouvez pas l'écrire. Et vous ne pouvez pas non plus mettre les prénoms des enfants de votre classe sur le panneau en leur demandant de retrouver leur prénom, puisque vous ne leur avez pas enseigné les correspondances qui le composent. Donc, vous voyez, ça va loin sur ce qui est tabou. Quatrième principe, déchiffrer à haute voix et faire répéter jusqu'à ce que l'enfant entende et retrouve le mot oral qu'il connaissait déjà. Donc il déchiffre, puis si c'est ananas, pour l'instant ça ne fait pas sens, ananas, anana, il le répète jusqu'à ce qu'il ait suffisamment collé les différents sons et les différentes syllabes pour retrouver l'image sonore du mot qu'il avait. Oui, bien sûr, ananas. Très bien, voilà le principe. Et les auteurs disent que, en fait, les difficultés de compréhension sont des difficultés de déchiffrage. Et que donc, les difficultés de compréhension disparaissent lorsque les enfants parviennent à lire sans annoncer, c'est-à-dire à lire comme ils parlent. Et là, évidemment, ça... Généralement, ça froisse un peu les maîtres de CP qui disent « Combien d'élèves j'ai qui déchiffrent bien, mais qui comprennent mal ?» C'est même ce que disent tous les profs de lettres à l'entrée au collège. Donc là, il y a sans doute un petit hiatus entre le fait que ce déchiffrage, il est nécessaire, mais de là à penser qu'il est suffisant, évidemment, il y a quand même un sérieux pari que j'aurais tendance à juger excessif. Alors, on jette un coup d'œil aux conséquences pratiques de ça, vous les connaissez comme moi. On choisit donc d'étudier un certain nombre de correspondances graphème-phonème autour de lettres à qui on attribue une valeur unique dans un premier temps. Voilà la planification de l'étude qui est proposée dans ce manuel, hein, qui est celui-ci, joli, j'écris. Et une fois qu'on a cette planification, on construit des séquences, vous les connaissez. Si on travaille sur le graphème CH, CH, la première série d'activités, c'est évidemment les activités de combinatoire où on combine ce son consonne avec un son voyelle, consonne plus voyelle, cha, cho, chi. Tout de suite, on travaille évidemment sur l'inversion, ce qui est important, et vous le savez, que vous utilisiez méthode syllabique ou pas, c'est de travailler sur l'ordre voyelle, consonne, consonne, voyelle. Et puis, évidemment, en complexifiant la syllabe avec voyelle, consonne, voyelle, ou consonne, consonne, voyelle, ou, etc., la combinaison de différentes sons consonnes avec un son voyelle à l'intérieur de chaque syllabe, si on considère que la syllabe est définie par le fait qu'elle a un noyau vocalique. Un son voyelle, c'est lui qui définit l'unité syllabique. Bien sûr, ensuite, lecture de mots. Lecture de mots, et je vous rappelle que le choix des mots, c'est des mots qui sont entièrement déchiffrables au moment où arrive la leçon 10, c'est-à-dire uniquement avec les correspondances graphèmes-phonèmes qui ont été étudiées de la leçon 1 à la leçon 9. Et évidemment, ça amène à un choix de vocabulaire qui n'est pas peut-être celui qui est le vôtre dans vos classes très couramment. Mais la règle, c'est que ça soit 100% déchiffrable. Puis, lecture de phrases. De la même manière, les phrases sont construites avec des mots qui sont eux-mêmes totalement déchiffrables, puisque c'est le principe absolu. Puis, une activité calligraphique, j'y reviendrai. Ça, c'est fondamental, la calligraphie. On a, je pense, un peu trop sous-estimé parfois le poids. Et j'insisterai tout à l'heure sur le fait que la qualité de la calligraphie, elle détermine jusqu'à la qualité orthographique des enfants. C'est pas d'un côté ils écrivent bien et de l'autre côté ils écrivent juste, mais les choses sont beaucoup plus interdépendantes qu'on ne peut le croire. Et puis de la dictée, c'est-à-dire une activité d'encodage où les enfants sont amenés à faire le chemin de ce qu'ils entendent vers ce qu'ils écrivent, qui est le chemin inverse du chemin du décodage précédent. Les activités de base, vous les connaissez, c'est évidemment le choix du matériau qui est pas forcément celui qui est le plus partagé par les collègues que nous avons pu observer. Je vous ai mis là pour mémoire, on ne va pas les commenter à l'envi, mais c'est vrai que quand vous lisez les phrases, là, vous avez un vocabulaire, vous avez des choix qui sont un peu loin du vocabulaire le plus connu, qui intéresse le plus et qui rencontre la littérature de jeunesse que fréquentent les enfants ou que vous fréquentez dans vos classes. C'est sûr qu'il y a débat là-dessus. Les auteurs défendent leur choix. Alors, évidemment, les prénoms qui sont dans ce manuel, c'est ceux-là. Et évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, de vos Kevin bon. Les auteurs qui sont face à des textes qui propose des textes dès la 10e, 11e semaine, là on est en novembre, décembre, hein, de ce manuel, avec des textes comme celui-là. À la pêche, Pascal apporte un appât, il capturera une énorme carpe, il a amené sa caméra, il a apporté aussi un repas car il n'a pas un petit appétit, etc. Vous voyez bien, au niveau des allitérations, le travail qui est derrière, c'est le travail du déchiffrage, mais évidemment, ça donne un vocabulaire dont les auteurs disent « Mais c'est vous qui vous trompez, les enseignants, les ressources linguistiques des enfants de cet âge sont souvent méconnues et grandement sous-estimées. » Je vous laisse juger de la pertinence de cette réflexion. Alors évidemment, après ce que j'ai dit sur de l'intérêt d'avoir une approche de type syllabique, vous comprenez que je suis plus réservé sur le fait de suivre une approche syllabique stricte. Ça va ? Je prends le risque de dire c'est ça ma position. Là-dessus, la recherche n'a pas montré que. C'est un formateur qui dit, en fonction de ce que je sais, en fonction de ce que j'ai lu, en fonction de ce que j'ai étudié, il me semble raisonnable de parier sur l'intelligence des enfants. Même les neurosciences me permettent de faire ce pari-là. OK ? En d'autres termes, si vous pariez sur l'intelligence des enfants, vous allez parier sur quoi ? Sur le fait qu'un enfant, ça raisonne, et que la base d'un raisonnement enfantin, c'est un raisonnement par analogie. Et que l'enfant de 6 ans, il est, surtout si on l'encourage, il est curieux de comprendre comment ça marche le code. C'est quand même une des plus belles découvertes de sa vie qui va se passer là au niveau de votre classe de CP. Vous avez de la chance. C'est de lui permettre de comprendre comment ça marche, ce truc dont il ne savait rien peu de temps avant et dont il va tout comprendre en quelques mois sur cette invention géniale de l'humanité relativement récente. D'ailleurs, Stanislas Dehaene explique comment le fait que ça soit une invention récente fait que notre cerveau n'a pas été conformé encore à cette découverte qu'est l'écriture, puisque c'est une invention récente. Notre cerveau, il a des zones dédiées au langage oral, parce que l'évolution de l'espèce a permis ça. Il a des zones dédiées à la reconnaissance des visages, parce que l'évolution de l'espèce repose sur le fait que les bébés d'hommes ont besoin de reconnaître les visages de leurs parents et de leurs proches, etc. Et qu'il n'y a pas d'air visuel dédié à la reconnaissance des lettres. Et donc, que font les bébés d'hommes ? Ils traitent les lettres avec des aires cérébrales qui étaient utiles à d'autres fonctions, par exemple à reconnaître les visages. Et c'est comme ça qu'on explique le fait que les enfants confondent le B et le D, le P et le Q, parce qu'il y a une symétrie axiale, comme sur les visages, et que mon profil gauche ou mon profil droit, vous le reconnaissez de la même manière, et que si vous traitez les lettres avec ces aires visuelles qui avaient l'habitude de traiter autre chose, eh bien vous ne discriminez pas forcément des choses qui ne sont différentes que sur un point, celle de la symétrie axiale, etc. C'est passionnant les neurosciences, ça vous explique ça. Alors, sur le fait de faire la classe, ça ne vous dit pas comment faire. Certains en resteront au gros bedon et au gros derrière que vous utilisez pour que les enfants se souviennent du B qui a un ventre sur l'avant et le D qui a des fesses sur l'arrière. Ça, c'est des techniques de praticiens. Les neurosciences n'ont rien à en dire. Si ce n'est qu'elles peuvent vous dire, si les enfants confondent ça, rien de grave, c'est normal, c'est une maturation neuronale. C'est le fait qu'ils n'ont pas encore suffisamment travaillé et reconnu ces lettres pour les avoir fixées en tant que telles, de manière maintenant invariante. Donc, beaucoup de choses de ce niveau-là, mais les neurosciences, elles nous renseignent aussi sur le fait qu'un enfant, c'est un enfant qui apprend d'autant mieux qu'il est actif, qui apprend d'autant mieux qu'il est attentif. Et donc, évidemment, toutes vos activités qui sollicitent leur activité, leur attention, leur intelligence, comment ça se fait que, justement, en ayant écrit la date plusieurs jours de suite, vous constatiez avec eux que ces mots-là se terminent par les deux mêmes lettres, D-I, 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 et que quand on les écoute, on entend lundi, mardi, mercredi, et là, vous allez accentuer, si ce n'est en mettant en route un raisonnement par analogie. Et évidemment que ce raisonnement par analogie, il est extrêmement fécond. C'est lui aussi qui va permettre à Antoine de dire que maintenant que vous avez appris à orthographier le mot dans D-A-N-S, ah oui, mais dans Antoine, on entend en comme dans, d'ailleurs, et on l'entoure, on voit que c'est écrit de la même manière. Donc il y a bien évidemment des activités de déchiffrage qui sont le fruit d'une activité de découverte, de tâtonnement, d'expérimentation, dans la mesure où les maîtres la sollicitent, l'encourage, la régule, envoie les feedbacks et tout ce qui permet de ça. Donc il ne s'agit pas d'opposer d'un côté quelque chose qui serait une intelligence du code et de l'autre côté l'application de règles bêtes et méchantes. On a besoin des deux. Les règles ne sont ni bêtes ni méchantes d'ailleurs. Elles sont des règles et on va apprendre à les fixer, à les mémoriser tout en développant cette curiosité enfantine. Et à partir de ce moment-là, il faut vraiment revendiquer haut et fort que l'analyse et la déduction, qui sont les deux activités ici, n'ont rien à voir avec ce jeu de devinettes qu'on nous oppose tout le temps en disant « Mais c'est quoi votre truc ? Les élèves, ils n'ont même pas besoin de regarder les mots, ils ferment les yeux et ils inventent des réponses. » Mais non, c'est pas ça qu'on fait. On leur demande pas de fermer les yeux, d'inventer. On leur demande d'avoir un regard analytique et de s'appuyer sur les règles qu'ils connaissent déjà et d'aller chercher celles qu'ils ne connaissent pas encore pour essayer de commencer à les approcher, ce qui est tout à fait autre chose. Donc il me semble qu'avec ce mode de raisonnement, on peut sortir des caricatures et des oppositions binaires, la globale et la syllabique, qui évidemment rendent tout le monde hystérique et idiot, il faut le dire.